Chapitre 3. Lundi 2 avril. Rencontré ce matin, en dehors des murs de Jérusalem, l'enterrement d'une pèlerine russe. Il en meurt tant au cours de ses voyages en Palestine. Vieille femme en cire jaune qui s'en va, le visage découvert, emporté par d'autres matouchkas. Et ils suivent par centaines les pèlerins et les pèlerines. Toutes les vieilles jupes fanées sont là. Toutes les vieilles casquettes à poils, toutes les barbes grises de Moudjik, toute la foule sordide et noirâtre. Mais la foi triomphante rayonne dans les regards et ils chantent ensemble un cantique de joie. On la trouve si heureuse, on en vit tant celle-ci qui est morte en terre sainte. Oh, la foi de ces gens-là! Le soir, au coucher du soleil, sortant de chez les pères de Sainte-Anne, j'étais tout près de l'enceinte gardée du Harem el-Shérif, tout près du lieu probable du prétoire de Pilate et du point initial de la voie douloureuse, dans un quartier désert et sinistre. Ils venaient de me montrer leur vieille basilique des croisades, les aimables pères de Sainte-Anne. Ils m'avaient conduit dans leur jardin pour me faire voir une piscine récemment exhumée par leurs soins et qui paraît être le réservoir de Bethesda. Ils m'avaient fait descendre dans leur profond souterrain où une tradition très vraisemblable place la maison de Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie, et où il est avéré, dans tous les cas, que bien avant le passage de Sainte-Hélène, les solitaires du Carmel, les chrétiens du 1er et du 2e siècle, descendaient par un soupirail pour tenir leurs clandestines assemblées de prières. Et tout se passait, revivait en mon esprit, au sortir de ce vénérable lieu, et maintenant, sous un silencieux crépuscule d'or, j'avais à remonter entre des murailles et des ruines désolées, toute la voie douloureuse, pour arriver là-bas au quartier nouveau que j'habite près de la porte de Jaffa. Sur ma gauche venait de se fermer l'enceinte du Haram el-Shérif, impénétrable absolument à partir de l'heure du Maghreb, et devant moi s'allongeait, pressée entre de tristes murs, une sorte de ruelle de la mort conduisant à la Via Dolorosa. Cette voie, telle qu'on la vénère de nos jours, reconnue depuis le XVIe siècle seulement, est fictive dans ses détails, mais réelle sans doute dans sa direction et ses grandes lignes. Ici surtout, en ce quartier de ruines qui entoure le palais de Pilate, les choses ont moins dû changer que plus loin, aux abords du calvaire. L'ancien pavé romain se retrouverait à quelques pieds au-dessous du sol, exhaussé aujourd'hui, et certains de ces vieux murs, plus enterrés qu'ils ne l'étaient jadis, mais demeurés debout aux mêmes places, ont peut-être vu passer le Christ chargé de sa croix. La voie est déserte ce soir, et déjà obscure dans son resserrement profond, avec un peu de mourante lumière d'or tout en haut sur le faîte de ses pierres rougeâtres. Le soleil doit être très bas, près de s'éteindre. On entend un bruit d'orgue et de chants religieux sortir encore de la chapelle des Pères de Sainte-Anne, qui viennent de fermer leurs portes. Elle monte, la rue, pénible, étroite et assombrie, entre ces deux rangées de murailles antiques, par places de grands arceaux, des fragments de voûtes la traversent, l'enjambent irrégulièrement, y jetant plus d'ombre. Ces parois hautes de 30 pieds sont bâties de larges pierres romaines ou sarrasines d'une même couleur un peu sanglante, avec çà et là, dans leur délabrement, des plantes accrochées de distance en distance, des contreforts énormes, tout rongés, les soutiennent. D'autres rues croisent celles-ci, aussi vides et aussi mortes, sans fenêtres, sans ouverture d'aucune espèce, voûtés presque entièrement de lourds arceaux en plein cintre ou en ogive, et s'en allant se perdre au loin dans une mystérieuse obscurité de nécropole. À peine quelques fantômes s'aperçoivent rares et furtifs au fond de ces couloirs, femmes voilées ou bédouins drapés de manteaux grisâtres. Hic flagella huit, dit une plaque de marbre blanc incrustée au-dessus d'une porte. Ah, c'est la chapelle de la flagellation du Christ, et bientôt le commencement de la voie douloureuse. Voici la caserne turque bâtie sur l'emplacement du palais de Pilate, première station du chemin de la croix. À partir d'ici jusqu'au Saint-Sépulcre, toutes les stations suivantes ne seront marquées par des inscriptions ou des colonnes. Plus confuse à mesure que je m'éloigne, la musique des pères de Sainte-Anne est près de se perdre à présent dans le lointain, malgré l'immense recueillement silencieux qui s'épand sur Jérusalem avec le crépuscule. Mais voici que d'autres chants s'élèvent, d'autres cantiques, d'autres sons d'orgue. Je passe devant un autre couvent, sous l'arc romain de l'Ecceomo, Saint-Jean 19.5, et ce sont les filles de Sion qui psalmodient derrière ces murs à la gloire du Sauveur. La voix douloureuse continue sa montée lugubre et solitaire, avec de temps en temps des brisures, des tournants brusques entre ces maisons mornes. Les derniers reflets d'or viennent de s'effacer aux pointes des plus hautes pierres, et le chant des filles de Sion commence à s'évanouir. Mais au-dessus de ces murailles qui m'emprisonnent, un coin plus élevé de Jérusalem se profile maintenant gris d'ombre sur le ciel chaud. Un amas de petites coupoles centenaires, avec deux minarets couronnés déjà en l'honneur du Ramadan, de leurs feux nocturnes. Les cantiques des filles de Sion ne s'entendent plus. Mais d'autres cris religieux, exaltés et stridents, partent ensemble de différents points de la ville, traversant l'air comme de longues fusées. Les muezzins qui chantent le Maghreb. Ô Jérusalem, sainte pour les chrétiens, sainte pour les musulmans, sainte pour les juifs, d'où s'exhale un bruit incessant de lamentation ou de prière. La voix monte toujours. Parfois, des maisons sarrasines la traversent comme des ponts sinistres jetés au-dessus, des maisons qui regardent de haut, par de méfiantes petites fenêtres barrées et grillées de fer. Les muezzins ont fini d'appeler. Le crépuscule et le silence jettent leur enchantement sur cette voix douloureuse que j'avais vue hier banale et décevante au soleil du plein jour. Le mystère des pénombres la transfigure. Son nom seul, que je redis en moi-même, est une sainte musique. Le grand souvenir semble chanter partout dans les pierres. Lentement, je suis arrivé à la septième station du chemin de la croix, à cette porte judiciaire par laquelle le Christ serait sorti de Jérusalem pour monter au Golgotha. Alors, il me faut traverser un lieu bruyant et obscur, encombré d'arabes et de chameaux, dans lequel, sans transition, je pénètre après le calme, après la solitude de la ville plus basse. C'est le bazar de l'huile, un quartier de petites ruelles entièrement voûté en plein cintre par les soins des croisés, et devenu aujourd'hui le centre d'un continuel grouillement bédouin. Il y fait noir, les lanternes sont allumées dans les échoppes où se vendent l'huile et les céréales. On est bousculé dans ces couloirs étroits par les passants en burnous, on est étourdi par les cris des vendeurs et les clochettes des chameaux. Puis le calme revient encore, au sortir de ce bazar couvert, et les chants religieux recommencent. Je suis parvenu au terme de la voie douloureuse, le Saint-Sépulcre. Comme toujours, la porte des basiliques est grande ouverte, et il s'en échappe un bruit de psalmodie. Ce soir, ce sont les Arméniens, en cagoule de deuil, qui chantent tout près de l'entrée, encensant la pierre de l'onction, et se prosternant pour le baiser. L'un d'eux, le principal officiant, est en robe d'or, coiffé d'une tiare rouge. Ils ont fini et ils s'éloignent rituellement dans le dédale obscur des églises, très vite toujours comme pressés d'aller adorer ailleurs, dans une autre partie de ce lieu de toutes les adorations, où les moindres pierres sont journellement encensées et embrassées avec larmes. Leur chant, une fois perdu dans le lointain des voûtes, voici un autre bruit qui s'approche, qui monte des profondeurs noires, puissant et lourd comme celui d'une foule en marche, d'une foule qui s'avancerait en murmurant des prières à voix basse dans des sonorités de caveau. C'est une horde de pèlerins de Caucase que j'ai vu entrer ce matin dans Jérusalem. Ils reviennent des chapelles souterraines et ils vont sortir d'ici, leur journée finie. En arrivant au kiosque du sépulcre, ils en font le tour, embrassant chaque pierre, soulevant dans leurs mains des petits enfants pour qu'ils puissent embrasser aussi, et leurs yeux, à travers des larmes, sont tous levés en prière extasiée vers le ciel. Est-il possible vraiment que tant de supplications, même enfantines, même idolâtres, entachées, si l'on veut, de grossièreté naïve, ne soient entendues de personne ? Un Dieu, ou seulement une suprême raison de ce qui est, ayant laissé naître, pour tout de suite les replonger au néant, des créatures ainsi angoissées de souffrance, ainsi assoiffées d'éternité et de revoir. Non, jamais la cruauté stupide de cela ne m'était encore apparue, aussi inadmissible que ce soir. Et voici que ce raisonnement tout simple, vieux comme la philosophie, et que je vais juger vide, comme elle, pendant ce lieu, devant ces grandes manifestations de détresse humaine au Saint-Sépulcre, un semblant de force. Voici qu'il réveille au fond de moi-même, d'une façon inattendue et douce, les vieux espoirs morts. Et je bénis fraternellement pour ce peu de bien qu'ils m'ont fait, les humbles qui passent là devant moi, chuchotant dans les ténèbres leur confiante prière. Mardi 3 avril. De la haute terrasse du couvent des filles de Sion, où je suis aujourd'hui, à l'heure lumineuse et déjà dorée qui précède le soir, on a vu comme un planant sur toute l'étendue de la ville sainte. Les deux mères qui ont bien voulu m'y conduire, religieuses exquises après avoir été dans le monde des femmes d'élite, me montrent avec des explications le déploiement de cette ville où elles sont venues vivre et joyeusement mourir. Les ruines, les églises et les monastères, l'innombrable assemblage des petites coupoles de pierre grise, les grands murs sombres et les espaces morts, tout cela se déroule sous nos yeux en un immense tableau d'abandon et de mélancolie. Nous sommes presque au milieu d'un quartier musulman et les premières coupoles, les premières terrasses à nos pieds appartiennent à de mystérieuses demeures. Nous surplombons de tout près un petit couvent de derviches hindous, dans lequel sont reçus et logés les pèlerins mahométans venus de l'Orient extrême. C'est un assez étrange et misérable lieu où des femmes et des chats rêvent en ce moment au soleil du soir, assis sur les vieilles pierres des toits. Au loin et du côté de l'ouest, s'en va le faubourg de Jaffa. Les consulats, les hôtels, toutes les choses modernes, d'ici peu apparentes et auxquelles, du reste, nous tournons le dos. En suivant vers le sud occidental, viennent le quartier des Grecs, le quartier des Arméniens et le noirâtre quartier des Juifs. Milliers de petits dômes pareils, d'aspect séculaire, avec quelques minarets, quelques clochers d'église, tout cela renfermé, réséparé de la campagne pierreuse et déserte par de hauts remparts aux crénelures sarrasines. Dans tout le sud-est, l'enceinte du Haram el-Sherif, sur lequel nos yeux planant, étend ses solitudes saintes où trône le mosquée bleue isolée et magnifique au-dessus de ses murailles de forteresse. Le Gethsémani, le mont des Oliviers, élève des cimes grises, et plus haut encore que tout cela, dans un presque irréel lointain, s'esquissent bleuâtres les montagnes du pays de Moab. Elle est d'une tristesse et d'un charme infini, l'enceinte sacrée, ainsi regardée à vol d'oiseau, avec ses quelques cyprès qui y tracent comme des larmes noires, avec ses kiosques, ses mihrabs, ses portiques de marbre blanc, épars autour de la merveilleuse mosquée de faïence. Et voici du monde aujourd'hui, dans ce lieu habituellement vide, des pèlerins mahométans, tout petits pygmées, vus d'où nous sommes, un défilé de robes éclatantes, rouges ou jaunes, qui sortent du sanctuaire aux murs bleus, pour s'éloigner silencieusement à travers l'esplanade funèbre, scène du passé, dirait-on, tandis que le soleil baissant, la lumière se fait de plus en plus dorée sur Jérusalem, et que là-bas la ligne calme des montagnes du Moab commence à prendre ses tons violets et ses tons roses du soir. Elles ont une des places les plus enviables de Jérusalem, les filles de Sion. D'abord l'arc romain de Lecce Homo, qui traverse la voie douloureuse en face de leur couvent, se continue chez elles par un second arc à peu près semblable qu'elles ont laissé intact avec ses vieilles pierres frustes et rougeâtres et qui impressionne étrangement. Débris probables du prétoire de Pilate, debout au milieu de leur chapelle toute blanche, décorée d'ailleurs avec un goût sobre d'une distinction suprême. Ensuite, en creusant le sol au-dessous de leur cloître, elles ont découvert d'autres émotionnantes ruines, une sorte de corps de garde romain qui vraisemblablement servait aux soldats du prétoire. Le commencement d'une rue au pavage antique, dont la direction est la même que celle de la voie douloureuse aujourd'hui reconnue, et enfin des entrées de souterrains qui semblent conduire au Haram Er-Sherif, à l'enceinte du temple. C'est ainsi que bientôt, en fouillant de tous côtés, sous les courants, sous les églises, à 10 ou 12 mètres plus bas que le niveau actuel, on reconstituera la Jérusalem du Christ. Chez les filles de Sion, bien entendu, ce souterrain, cette rue, tout cela se perd mystérieusement dans la terre amoncelée, sitôt qu'on arrive aux limites de la communauté. Mais plus loin, disent-elles, en différentes places, d'autres religieux ont commencé à faire la même chose. Dans chaque monastère plonge par des caveaux dans le sol profond, et déjà l'on peut, en rapprochant idéalement les tronçons des voies hérodiennes, les débris des anciens remparts, retrouver et suivre jusqu'au calvaire la route du Christ. Ce qui frappe singulièrement ici, dans ces fouilles, c'est la conservation de ce vieux pavage, le poli de ces pierres rougeâtres qui, pendant des siècles, sous la terre, ont gardé l'usure des pas. Et même voici, sur l'une des dalles grossièrement gravée au couteau, un jeu de margelle identique à ceux de nos jours, un jeu qu'avaient tracé les soldats romains pour occuper leurs heures de veille. Oh, comme il est impressionnant ce détail, pourtant si puéril, et quelle vie soudaine sa présence vient jeter pour moi dans ce fantôme de lieu. Est-ce que nous sommes bien dans le corps de garde du prétoire? Ce vestige de rue qui part d'ici en pleine obscurité sépulcrale pour se perdre dans la terre, est-ce bien le commencement de la voie qui mena le Christ à Golgotha? Rien n'autorise encore à l'affirmer, malgré les probabilités grandes. Mais la mère qui m'accompagne dans ces caveaux, promenant sur les murs millénaires la lueur de sa lanterne, a réussi à faire passer momentanément en moi sa conviction ardente. Me voici devant ces débris, ému autant qu'elle-même, et pour un temps je ne doute plus. Ce jeu de margelles par terre attire et retient mes yeux. Maintenant, je les vois presque, les soldats de Pilate, accroupi à jouer là, pendant que Jésus est interrogé au prétoire. Toute une reconstitution se fait dans mon esprit, involue, spontanée, des scènes de la Passion, avec leurs réalités intimes, avec leurs détails très humains et très petits. Sans grand déploiement de foule, elles m'apparaissent là, si étrangement présentes, dépouillées de l'auréole que les siècles ont mise alentour, amoindries, comme toutes les choses vues à l'heure même où elles s'accomplissent, et réduites, sans doute à leur proportion vraie. Il passe devant moi le petit cortège des suppliciés traînant leur croix sur ces vieux pavés rouges. C'est au lever d'une journée quelconque des nuageux printemps de Judée. Ils passent ici même, entre ces murs si longtemps ensevelis, contre lesquels ma main s'appuie. Ils passent, accompagnés surtout d'une horde de vagabonds, matineux et craintivement suivis de loin par quelques groupes de disciples et de femmes que l'anxiété avait tenu debout toute la froide nuit précédente, qui avait veillé dans les larmes autour du feu. L'événement qui a renouvelé le monde, qui après 1900 ans attire encore à Jérusalem des multitudes exaltées et les fait se traîner à genoux pour embrasser les pierres, m'apparaît en cet instant comme un petit forfait obscur, accompli en hâte de grand matin, au milieu d'une ville dont les habitudes journalières en furent à peine troublées. Tandis que je marche dans le souterrain, aux côtés de la religieuse en robe blanche, la vision que j'ai se déroule, inégale, trop instantanée, en quelques furtives secondes, avec des intervalles vides, des lacunes, des trous noirs, comme dans les songes. Maintenant, c'est après la crucifixion, la foule déjà dispersée, l'apaisement commencé. La croix sous le ciel de midi, qui est un peu trop sombre, étend ses deux grands bras, dépasse en hauteur le faîte des murs de Jérusalem, est visible de l'intérieur de la cité, et regardée encore des terrasses par quelques femmes silencieuses aux yeux d'angoisse. Oh, si humaines les larmes versées en ce jour-là autour de Jésus, la terre, ses frères, ses amis, le pleurant, lui, parce qu'il l'aimait d'un amour humain, d'une anxieuse tendresse de cette terre. Et quoi de plus humblement terrestre aussi que ce passage de Saint Jean, tout à coup retrouvé dans ma mémoire. Jésus, ayant donc vu sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Saint Jean 19, 26-27. Enfin, dernière image qui vient, inattendue et froide, terminer le rêve. Le soir du grand lugubre jour. Les choses tout de suite rentrant dans l'ordre, reprenant leur cours inconscient. Une incroyable tranquillité retombée comme sur une exécution quelconque. La population juive retournant à ses trafics et à ses fêtes, préparant sa Pâque, après ce forfait presque inaperçu, sans se douter que ses fils emporteraient la peine et l'opprobre au siècle des siècles. Quand nous remontons du souterrain, remettant pied dans l'heure présente et les choses actuelles, c'est comme au sortir de l'épaisse nuit des temps, où nous aurions été là, replongés, et où nos yeux visionnaires auraient perçu des reflets de très anciens fantômes. Jamais je ne m'étais senti si humainement rapproché du Christ, de l'homme, notre frère, qui incontestablement, pour tous, vécut et souffrit en lui. Ce sont les mystérieuses influences de ces lieux qui en ont créé les causes. Ce sont ces vieux pavés hérodiens sous nos pas, ce jeu de margelle tracé par les soldats de Ponce Pilate, tous ces effluves du passé que dégagent ici les pierres. Mercredi 4 avril. En me rendant aujourd'hui chez les Dominicains, où le père Hess a bien voulu me donner rendez-vous pour me montrer le tracé des anciennes murailles de Jérusalem et m'exposer les plus récentes preuves de l'authenticité du Saint-Sépulcre, je passe devant cette colline couverte d'herbes rases et parsemée de tombes qu'on appelle encore le calvaire de Gordon. Il y a quelque 30 ans, Gordon, rêvant dans ces parages, avait été frappé d'une certaine ressemblance de grandes têtes de mort que présentent les roches à la base de cette colline. Trop légèrement, sans doute, il en avait conclu que ce devait être là le champ du crâne, le vrai Golgotha, et son opinion, jusqu'à ces dernières années, jusqu'à l'époque des dernières fouilles russes, avait trouvé crédit chez tous les esprits un peu frondeurs, heureux de prendre en défaut les traditions antiques. Elle est assez frappante, du reste, cette ressemblance des roches. Aujourd'hui, surtout, le soleil est bien placé, l'éclairage est propice et le crâne se dessine, contemplant par les deux trous de ses yeux les mélancoliques alentours. Chez les dominicains, maintenant, dans leur tranquille salle d'études, nous regardons une grande carte accrochée à la muraille et sur laquelle se trouve savamment reconstituée presque toute la Jérusalem d'Hérode. A priori, on s'expliquait difficilement que l'impératrice Hélène, venue dans la ville sainte à peine 250 ans après Jésus-Christ, se fût trompée d'une façon si grossière sur la position du Golgotha. Il est vrai, les chrétiens des premiers siècles, dans leur spiritualité évangélique, n'avaient pas le culte des lieux terrestres. Mais c'est égal, comment auraient-ils pu si vite oublier où s'était passé le martyr du Sauveur, qui à cette époque n'était guère plus loin d'eux que ne le sont de nos jours les faits du XVIIe siècle, du règne de Louis XIV, par exemple. Il restait cependant cette objection très grave. Le vrai calvaire, d'après les historiens sacrés, était près d'une des portes et en dehors des murs de Jérusalem, tandis que celui de l'impératrice Hélène semble situé presque au cœur de la ville. Sur la grande carte murale que nous examinons sont tracées les trois enceintes anciennes, conjecturées d'après des fouilles dans le sol, d'après des recherches dans les vieux auteurs. La première n'enfermant que la ville primitive et le temple, la seconde s'étendant vers le nord-ouest, mais laissant en dehors, dans un de ses angles rentrants, le calvaire et le sépulcre. La troisième, celle qui subsiste de nos jours, englobant tout, mais postérieure, celle-ci, à l'époque du Christ. Et les dernières fouilles russes viennent, paraît-il, de donner une sanction éclatante à ces conjectures sur le parcours et l'angle rentrant de cette deuxième enceinte. Alors, l'objection tombe, rien n'en subsiste plus, et on peut continuer d'admettre comme authentique ce lieu vénérable, d'où monte vers le ciel, depuis tant de siècles, une immense et incessante prière. En sortant de chez les dominicains, je me dirige, sur leurs indications, vers le lieu de ces fouilles nouvelles. Entré dans Jérusalem par la porte de Jaffa, je descends la rue des Chrétiens, et passant devant le Saint-Sépulcre, tête nue comme il est d'usage, je vais frapper à la porte d'un couvent russe, qui s'ouvre par exception malgré l'heure tardive. Derrière la chapelle, à 5 ou 6 mètres au-dessous du sol contemporain, les précieuses découvertes, soigneusement déblayées, s'abritent sous de grandes voûtes d'église, toutes uniment blanches. C'est d'abord une voie hérodienne, pavée de pierres striées, comme celle des caveaux d'hier, vraisemblablement la continuation et la fin de cette même voie douloureuse qui commence là-bas, sous le couvent des filles de Sion, pour aboutir ici, tout à côté de la basilique du Saint-Sépulcre, au pied même du calvaire. Puis c'est un fragment indiscutable des vieux remparts de Jérusalem. C'est le seuil, ce sont les soubassements d'une des portes de la ville par laquelle cette sombre voie passe et sort, pour monter en tournant dans la direction de la basilique, et s'enfouir là, sous les terrassements anciens, à la base du Golgotha. Toutes ces choses massives et frustes, d'une couleur rougeâtre comme la terre, laissées telles quelles sous des voûtes blanches, sans un ornement, sans un tabernacle, sans une lampe, font l'effet de ces débris morts qui gisent dans les musées, sauf qu'elles sont restées en place et qu'elles ont leurs attaches profondes dans le sol. Le rempart est composé de ces blocs de dimensions cyclopéennes qui dénotent les constructions antiques, et le seuil de cette porte de ville est une pierre géante où se voient encore les trous pour les gonds énormes, l'entaille centrale pour les barres de fermeture. Elle est étrange et unique, cette voie, tout de suite perdue dans un impénétrable grand mur, et quand même désignant la montée et la direction du calvaire, avec une sorte de geste indicateur, mutilé, brisé, mais indéniable et décisif. Et comme il est émotionnant à regarder ce seuil qui a conservé le poli des usures millénaires et où sans doute se sont posés les pieds du Christ, alourdis du poids de la croix. « Et pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» dit l'ange annonciateur de la résurrection. Saint Luc 24,5. Et ces mots sont devenus comme la devise des chrétiens évangéliques pour lesquels les lieux saints comptent à peine. Mais j'ai cessé d'être des leurs, et comme je ne pourrai jamais marcher avec les multitudes qui dédaignent le Christ ou l'oublient, je suis retombé au nombre de ceux qui le cherchent désespérément parmi les morts. Et je poursuis partout ici son ombre, inexistante peut-être, mais demeurée quand même adorable et douce. Et je subis, sans le comprendre, le sortilège de son souvenir, seul des souvenirs humains qui aient gardé le pouvoir de faire encore couler les bienfaisantes larmes. Et je m'abîme et m'humilie en un recueillement profond devant ce funèbre vieux seuil, exhumé hier, sur lequel peut-être Jésus a fait ses derniers pas le matin où il s'en allait angoissé, comme le moindre d'entre nous, au grand mystère de sa fin. Jeudi 5 avril. Erré à cheval au déclin du soleil dans la triste campagne de Jérusalem du côté du Levant et du Nord. Comme il est pâle ici le printemps, pâle, voilé et froid. Il est vrai, nous sommes sur les hauts plateaux de Judée, à 800 mètres environ au-dessus du niveau des mers, déjà dans des régions des vents et des nuages. Campagne de pierres grisâtres parsemées d'oliviers frêles. Par terre, une herbe courte et rare, et toujours les mêmes fleurs, des anémones, des iris, des cyclamènes. Un vent très frais s'est levé à l'approche du soir. De longs nuages effilés arrivent de l'ouest et courent dans le ciel jaune. Le sol est jonché de ruines, plein de cavernes et de sépulcres, et de temps à autre, au hasard des collines de pierre et des vallées de pierre, la muraille de Jérusalem, dans le lointain, apparaît ou se cache, toujours farouche et haute, évoquant les grands fantômes des croisés et de Saladin. Je m'arrête successivement à ces deux nécropoles souterraines qui sont percées en labyrinthe au cœur des rochers et que les voyageurs visitent toujours. L'une appelée le tombeau des rois et qui était vraisemblablement le lieu de sépulture de la reine d'Abidem avec ses fils, et l'autre appelée le tombeau des juges et qui, au dire des plus récents archéologues, fut creusée pour les membres du Sanhédrin. Toutes deux témoignent du faste grandiose des vieux temps, et toutes deux, vides, profanées, fouillées on ne sait combien de fois pendant les invasions et les pillages. Vendredi 6 avril. C'est le jour que le père S. a bien voulu fixer pour me conduire à la vallée de Josaphat et au Gethsémani. L'archimandrite russe est mort hier, et on doit l'emporter tout à l'heure de ce côté-là, au-dessus du Gethsemane, où il vient enterrer. Alors la route que nous suivons, et qui contourne extérieurement du côté du nord les murs de Jérusalem, est envahie par des gens qui veulent voir défiler ce cortège. Et tous les mendiants aussi, tous les estropiés, tous les aveugles sont là, échelonnés le long du parcours, assis comme des gnomes au pied des remparts de Sélim II, sur les pierres qui bordent le chemin. Puis, quand nous tournons l'angle oriental de la ville et que la vallée de Josaphat s'ouvre, en grand précipice devant nous, elle apparaît ce soir d'une animation extraordinaire. Lieu habituel de morne silence, elle est par exception remplie de bruit et de vie. Des Grecs, des Arabes, des Bédouins, des Juifs, des femmes surtout, des groupes de longs voiles blancs parmi les tombes, attendent que passe le corps du vieil archimandrite, dont la sépulture sera de l'autre côté de cette sombre vallée, sur la montagne d'en face. Descendons d'abord jusqu'au plus bas du ravin, traversons le lit desséché du Cédron, et là, avant de remonter vers le Gethsémani, nous nous arrêterons au tombeau de la Vierge. Une antique église du IVe siècle, que depuis de plus de 1000 ans, toutes les religions se sont disputées et arrachées. Elle appartient aujourd'hui en commun aux Arméniens et aux Grecs. Mais les Syriens, les Mahométans, les Abyssins, les Coptes, possèdent tous un endroit réservé pour leurs prières, et les Latins seuls en sont exclus. Extérieurement, on n'en voit rien qu'une triste façade de mausolée dont les pierres noirâtres sont envahies par les herbes des ruines. Au milieu, une antique porte de forteresse, aux clous énormes, toutes déjetées sous son armature de fer, et un seuil de fer usé sous les pas des pieuses foules. Dès l'entrée, une obscurité subite, une âcre odeur de moisissure et de caverne, où se mêle le parfum de l'encens. Des haillons suspendus, des grabats sordides et défaits, qui servent aux gardiens de ce lieu rempli d'argent et d'or. On a devant soi un escalier monumental qui s'enfonce dans la terre, sous une sorte de nef d'église, incliné aussi et en descente rapide, comme l'escalier, vers les profondeurs obscures. Cette voûte penchée aux arceaux d'un gothique primitif et lourd est l'ouvrage des croisés qui, en arrivant, déblayèrent l'église byzantine d'en dessous, en ce temps-là convertie en mosquée et à moitié enfouie. Sur les principales pierres, du reste, la marque des tâcherons francs du XIIIe siècle se lit encore. À l'usure des marches, aux luisants noirs des murailles, on prend de prime abord conscience d'une antiquité extrême. On descend, et ce que l'on aperçoit en bas ressemble plus à une grotte qu'à une église. Cependant, de la voûte retombent, comme de merveilleuses stalactites, des centaines de lampes d'argent ou d'or accrochées en guirlandes ou en chapelets. Il est irrégulier et tourmenté, cet intérieur de crypte. Il est tout en petits recoins incompréhensibles où cherchent à s'isoler les uns des autres les autels des 5 ou 6 cultes ennemis. On y trouve même, dans un coin près du tombeau, au milieu de tant de symboles chrétiens, un mihrab de mosquée pour les mahométans, qui ont voué, comme on sait, une vénération particulière à Madame Marie, mère du prophète Jésus. Ici, plus encore qu'au Saint-Sépulcre, le contraste est étrange entre les richesses d'anciennes orfèvreries, partout amoncelées, et l'usure millénaire, le délabrement, l'air de caducité mourante. Des voûtes à demi brisées, des pierres frustes, de grossières maçonneries, des fragments de roches souterraines, tout cela en fumée noirâtre, suintant d'humidité à travers les toiles d'araignée et la poussière. Il fait nuit comme dans un caveau pour les morts. Il y a des couloirs ténébreux, murés depuis des siècles, des commencements d'escaliers qui allaient jadis on ne sait où, et qui se perdent aujourd'hui dans la terre. Il y a d'autres tombeaux aussi qui passent pour ceux de Saint Joseph, de Sainte Anne, des parents de la Vierge. Il y a même une citerne enfermant une eau réputée miraculeuse. Çà et là, de vieux brocarts cloués sur le rocher pendent comme des loques, ou bien de vieilles broderies orientales jetées sur les murs s'émiettent et pourrissent. Et les cierges et l'encens fument ici sans cesse, dans l'étouffement funèbre de ce lieu, sous cette espèce de pluie, de givre d'argent et d'or, qui est une profusion de lampes et de lustres sacrés, de tous les styles et de tous les temps. L'authenticité de cet étrange sanctuaire est bien contestable. Elle est même formellement contredite par le troisième concile général tenu à Éphèse en l'an 341, et qui place à Éphèse même le tombeau de la Vierge, à côté du tombeau de Saint Jean, son fils d'adoption. Les érudits en sont aussi à discuter si c'est bien Sainte Hélène qui fonda la basilique primitive, en même temps que celle du Saint-Sépulcre. Mais, tel qu'il est dans sa naïve barbarie, ce lieu demeure l'un des plus singuliers de Jérusalem. Tandis que nous remontons de l'obscurité d'en bas par le large escalier noir des croisées, un chant grave et magnifique nous arrive du dehors. Un chœur qui se rapproche, chanté à pleine voix rude par des hommes en marche. C'est l'enterrement de l'archimandrite. C'est le spectacle que la foule attendait et qui s'offre à nous au sortir de l'église souterraine, dans la lumière subitement reparue. En tête cheminent des gens en robe de brocart, portant au bout de hampe des croix d'argent et des soleils d'or. Puis viennent les prêtres, les chanteurs de cette funèbre marche. Et enfin, le vieil archimandrite s'avance et passe, le visage découvert, livide, couché sur des fleurs. Il traverse le lit du cédron et, emporté les pieds en avant, plus haut que la tête, il commande de s'élever sur la montagne sacrée où il va dormir. Auprès de nous, qui le regardons arrêté contre les antiques portes de fer, des musulmans sont agenouillés, tournant dédaigneusement le dos au cortège et priant Madame Marie avant de descendre dans son tombeau. Ils portent le turban vert des pèlerins qui reviennent de la Mecque. Leurs groupes et leurs prières, tout cela est de plus pur islam, bizarrement mêlé à ce défilé du vieux rite orthodoxe russe. Et l'ensemble caractérise bien cette Babel des religions, qui est Jérusalem. Nous sommes au plus profond du ravin, surplombés de tous côtés. Derrière le cortège qui s'éloigne avec ses chants et ses emblèmes, la sombre vallée de Josaphat déroule la succession infinie de ses tombes. Du côté du Levant sont les cimetières d'Israël, dominés par le Gethsémani et le Mont des Oliviers. Et du côté de l'Ouest s'étagent les cimetières musulmans que couronne, presque montée dans le ciel, la haute muraille grise de Jérusalem. Cependant, nous nous rendons au Gethsémani. J'aurais voulu du silence. Pour la première fois de ma vie, je vais pénétrer, oh, si anxieusement, dans ce lieu dont le nom seul, à distance, avait le grand charme profond. Je ne prévoyais pas tout ce monde, mais cet enterrement pompeux, ces gens quelconques attroupés là pour un spectacle. D'abord, entrons dans la grotte dite de l'agonie, devenue aujourd'hui une chapelle à voûte de clocher, qui passe depuis le XIVe siècle pour le lieu de l'agonie du Christ, mais qui, d'après une indiscutable tradition primitive, est l'abri où, la nuit de la Passion, sommeillaient les apôtres. Si tant d'autres lieux saints à Jérusalem ne sont que conjectures et probables, celui-ci ne saurait être contesté. Pas plus que le Gethsémani, d'ailleurs, qui à aucune époque de l'histoire n'a changé de nom. Les petits autels, très antiques, très modestes et d'aspect délaissé, ne défigurent pas cette grotte dont l'ensemble a dû peu varier depuis 19 siècles. Par une nuit de printemps, froide comme va être celle qui s'approche ce soir, les apôtres dormaient là, les yeux appesantis d'un sommeil de fatigue et d'angoisse. Matthieu 26, 40-43, Marc 14, 40. Tandis que le Christ s'était éloigné d'eux dans le jardin, à la distance d'un jet de pierre, pour se recueillir et prier dans l'attente de la mort. C'est sous cet abri que Jésus revint par 3 fois les éveiller, et qu'il fut environné enfin par la troupe armée, accourue avec des lanternes et des flambeaux pour se saisir de lui. Cette voûte de rocher qui se tient là, muette sur nos têtes, a vu ces choses et les a entendues. Pour entrer au jardin de Gethsémani, qui est situé à quelques pas plus loin, au flanc du mont des Oliviers, il faut frapper à la porte d'un couvent de moines franciscains qui garde jalousement ce lieu. Un jardinier mignard, entouré d'un mur blanc sur lequel on a peinturluré un chemin de croix. 8 oliviers, millénaires, il est vrai, sinon contemporains du Christ, mais enfermés derrière des grilles pour empêcher les pèlerins d'en détacher des rameaux. Alentour des petites plates-bandes qu'un frère est occupé à ratisser, et où poussent de, comme une fleur de printemps, des giroflées jaunes et des anémones. Plus rien du grand souvenir ne persiste en cet endroit banalisé. Des moines ont accompli ce tour de force, faire de Gethsémani quelque chose de mesquin et de vulgaire. Et l'on s'en va, l'imagination déçue, le cœur fermé. Heureusement, peut-on se dire que le lieu de la suprême prière du Christ n'est pas déterminé à 100 mètres près? À côté du petit enclos des Franciscains, sur la triste montagne pierreuse, il y a d'autres vergers d'oliviers aux souches antiques. Et là, il sera possible de revenir, par les tranquilles nuits froides, songer seul et appeler des ombres. Mais des impressions du grand passé nous reprennent bientôt, quand au jour baissant, nous nous retrouvons dans la partie intacte, désolée de la vallée de Josaphat. Ici, regardez, nous dit le Père Blanc, des aspects contemporains du Christ subsistent encore. Et il nous désigne, dans le morne déploiement de ce paysage biblique, les choses changées, les choses qui ont dû persister, toujours pareilles. Parmi les pierres tombales, sur ce sol empli d'ossements humains, nous nous sommes arrêtés, faisant face à Jérusalem qui, vu de ce côté, domine la vallée des morts comme une ville fantôme. La forme générale des montagnes, naturellement, est demeurée immuable. Dans nos plus proches alentours, sur ce versant oriental par lequel nous descendons, gît la multitude infinie des tombes d'Israël. Là-bas, derrière nous, Siloé, amas de ruines et de cavernes sépulcrales, aujourd'hui repère de bédouins sauvages, regarde aussi dans la sombre vallée où nous sommes. Sur notre gauche, l'antique Ophel, à l'abandon, n'est plus qu'une colline couverte d'oliviers et de vestiges de murailles. Et devant nous, tout en haut, couronnant le versant opposé au nôtre, les grands murs crénelés de Jérusalem se dressent d'un gris sombre, droits et uniformes dans toute leur longueur. En leur milieu seulement, dans un bastion carré qui s'avance, une porte d'autrefois se dessine encore, murée sinistrement. C'est le côté du harem shérif, de l'enceinte sacrée, et cette partie des remparts n'enferme que l'esplanade déserte de la mosquée bleue. Aussi ne voit-on rien apparaître au-dessus de ces interminables rangées de créneaux, comme s'il n'y avait pas derrière que du vide et de la mort. Rien non plus à l'extérieur. Ces abords du sud-ouest de Jérusalem sont comme ceux d'une nécropole oubliée. Ni passants, ni voitures, ni caravanes, ni routes. à peine quelques sentiers solitaires parmi les tombes, quelques montées de chèvres serpentant sur les parois abruptes des ravins. Les abords du Gethsémani que nous venons de quitter et qui étaient si animés tout à l'heure sur le passage de l'Archimandrite se sont vidés à l'approche du soir. Dans la vallée de Josaphat, il n'y a plus que nous, et au loin, quelques pâtres bédouins qui rassemblent leurs troupeaux en jouant de la musette. Nous cheminons dans les derniers replis d'en bas vers Ophel, suivant la roue court desséchée du Cédron. Ici, il n'est plus qu'un mince ruisseau, le torrent dont parle l'Évangile, et son lit d'ailleurs a été en partie comblé par tout ce qui est tombé de là-haut, à des siècles d'intervalle, décombres, ruines de murailles, éboulements de ce temple, tant de fois saccagé et détruit. Le soleil s'en va, nous laissant plonger de plus en plus dans l'ombre froide, tandis qu'une lueur rouge d'incendie éclaire encore la hauteur mélancolique de Siloé et le faîte du mont des Oliviers. Nous sommes arrivés tout auprès de ces trois grands mausolées qui se suivent et qu'on appelle les tombeaux d'Absalom, de Josaphat et de Saint-Jacques. Je ne sais ce qu'il y a dans leur forme, dans leur couleur, dans tout leur aspect, de si étrangement triste. Le soir, cela s'accentue encore. Ces deux, sans doute, qu'émanent, bien plus que des myriades de petites tombes pareilles semées dans l'herbe, l'immense tristesse de cette vallée du jugement dernier. Tous trois sont monolithes, taillés à même et sur place dans les rochers. Il n'y a plus rien là-dedans depuis des siècles. Ils ont été vidés de leurs cadavres et de leurs richesses. Par leurs ouvertures, outre leurs colonnes doriques, ce que l'on aperçoit à l'intérieur, c'est le noir de dessous terre, l'obscurité sépulcrale. Cela leur donne la même expression que celle de ces têtes de mort qui ont en guise d'yeux des trous noirs. Et ils ont l'air de regarder devant eux, éternellement, dans le sombre vallée. Non seulement ils sont tristes, mais ils font peur. Maintenant, nous allons traverser le lit du Cédron par une sorte de petite chaussée de petits ponts d'une haute antiquité qui n'a pas été détruit, puis sur l'autre versant, nous monterons par des sentiers jusqu'à la grande muraille d'en haut pour rentrer dans Jérusalem. La veille de la Passion, nous dit le Père Blanc, lorsque le Christ, sortant de la ville, monta au Gethsémani, il est probable qu'il passa ici même, car vraisemblablement c'était autrefois le seul point où le torrent pouvait être franchi. Alors nous nous arrêtons de nouveau pour contempler mieux nos silencieux alentours. Les lueurs rouges sur Siloé viennent de s'éteindre. On en voit traîner encore les derniers reflets plus haut sur les cimes. L'appel grêle des musettes de bergers s'est perdu dans le lointain. Le vent s'est levé et il fait froid. Par une soirée de cette même saison, sur la fin d'un jour de printemps comme celui-ci, Jésus, à cet endroit même, a dû passer. À la faveur de l'identité des lieux, de la saison et de l'heure, une évocation soudaine se fait dans nos esprits de cette montée du Christ au Gethsémani. La muraille du temple, devenue celle du Haram el-Sherif, s'étendait là-haut en ce temps-là, comme aujourd'hui, découpé peut-être sur des nuages pareils. Ces assises inférieures, du reste, composées de grandes pierres salomoniennes, étaient celles que nous voyons encore, et son angle sud, qui domine si superbement l'abîme, se dressait dans le ciel à la même place. Tout cela seulement était plus grandiose, car ces murs du temple, enfouis à présent de 25 mètres dans de prodigieux décombres, avait jadis 120 pieds de haut au lieu de 50, et devait jeter dans la vallée une oppression gigantesque. Siloé sans doute était moins en ruine, et Ophel existait encore. L'inouïe désolation annoncée par les prophètes n'avait pas commencé de planer sur Jérusalem. Mais il y avait la même lumière et les mêmes lignes d'ombre. Le vent des soirs de printemps amenait le même frisson et charriait les mêmes senteurs. Les plantes sauvages, petites choses si frêles et pourtant éternelles, qui finissent toujours par reparaître obstinément au même lieu, par-dessus les décombres des palais et des villes, étaient comme maintenant des cyclamènes, des fenouilles, des graminées fines, des asphodèles. Et le Christ, en s'en allant pour la dernière fois, put promener ses yeux distraits des choses de la terre sur ces milliers de petites anémones rouges dont l'herbe des tombes est ici partout semée comme de gouttes de sang.